À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans cette dernière émission, je voudrais parler de l'importance des rites, des sacrements, des démarches que l'on peut faire avec la personne en souffrance. J'étais malade et vous m'avez visité, dit le Seigneur en Matthieu au chapitre 25. Et dans l'épître de Jacques, on lit « Si l'un de vous est malade, qu'il fasse venir les anciens de l'Église ». C'est en réponse à ces invitations de la parole de Dieu que l'Église propose des démarches sacramentelles qui sont particulièrement propices au soutien, à la consolation et qui parfois permettent la guérison de personnes en situation de fragilité. Et donc cette réponse de l'Église n'est pas facultative, c'est une responsabilité et une obligation pour les communautés chrétiennes. Et nous pouvons nous poser la question de savoir la place qu'on lui donne à cette invitation. À cette occasion, les communautés peuvent découvrir qu'il ne s'agit pas seulement de se soucier des malades, mais aussi de recevoir et d'apprendre d'eux. Car c'est vrai, du cœur de leur épreuve, les personnes fragiles nous rappellent à la fois notre destinée et notre vocation. Nous sommes des créatures limitées et mortelles, et il ne faut pas fuir cette réalité. Mais aussi, elle nous révèle que nous avons en nous des trésors de compassion, et ainsi la fragilité des autres nous révèle parfois dans l'étonnement d'une rencontre des possibles en nous dans lesquels nous ne croyons pas. Voyons les rites au secours de la santé. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on peut offrir? Nous l'avons vu, la santé, la maladie, la guérison, ce sont des réalités infiniment complexes qui marquent toute vie humaine. Et depuis les origines, l'humanité essaye de les apprivoiser. Nous avons dit, il y a aussi plein de thérapies différentes qui vont être proposées, inventées par les cultures, parfois par les religions. Mais il n'y a pas que les thérapies, il y a aussi les rituels. Des rituels de protection, des rituels d'intercession, de purification, de guérison. L'être humain est un être marqué par l'histoire, par le temps, par l'usure du corps, par les étapes de la vie, donc par des rythmes. Or, nous voyons que dans les religions, dans les cultures, qui dit rythme dit rite. Les grands rythmes de la vie sont ritualisés. Le rôle du rite, c'est de marquer les rythmes de la vie en célébrant des passages, en institutionnalisant des étapes, comme par exemple des étapes de la vie humaine, la naissance, la puberté, le mariage, la maladie, la mort, ou des étapes qui marquent les saisons, les grands mouvements cosmiques liés à la lune, au soleil, les grandes célébrations du temps. La santé aussi a des rites référenciés. Depuis les cérémonies des guérisseurs traditionnels, en passant par les rituels thérapeutiques contemporains de la biomédecine, de la psychanalyse, dans nos hôpitaux. Il y a les rituels de consultation, les rituels d'hospitalisation, la grand-messe des blocs opératoires. On y retrouve tout, les prêtres, entre guillemets, les assistants, les gestes plus ou moins sacralisés, les symboles, les interdits, jusqu'à restaurer parfois l'opposition entre le pur et l'impur, et aussi des croyances et des garants de cette orthodoxie. C'est vrai qu'il y a tout un rituel de la santé de nos jours. On pourrait aussi parler du rituel du psychanalyste. Au sein de cet univers ritualisé, le rôle des religions est parfois mieux reconnu en milieu hospitalier. Dans la mesure où les soignants ont une vision plus holistique, plus intégrale de la santé, ils commencent à reconnaître que la religion peut avoir un rôle dans le soin, dans la thérapie, dans le soulagement de la personne qui souffre. Sans oublier d'ailleurs qu'un certain nombre de soignants, confrontés au quotidien à la souffrance et à la mort, ressentent le besoin de puiser dans les ressources d'une spiritualité, d'une démarche religieuse. On constate que la dimension religieuse ou spirituelle apporte du sens, du réconfort et ouvre à une transcendance. Oui, l'être humain n'est pas qu'une biologie ou un composé psychosomatique. Il est un être de raison, de sentiment, ouvert à l'absolu, ouvert à la relation. Cela nous rappelle aussi que l'action médicale elle-même tire son origine et reçoit sa signification d'une source autre qui élargit à l'infini les souffrances et le souci immédiat de la personne fragile, qui élargit ce qui se vit là aux dimensions de Dieu et de l'ensemble de la communauté humaine. Plus l'être humain se sent fragile, plus il multiplie les rites, plus il risque de retomber dans une mentalité magique. Or, peut-être paradoxalement, en humanisant la maladie, surtout quand on ne peut pas la guérir, les rites religieux ouvrent sur le divin et même sur l'éternité. Parce que le corps n'est pas le tout de l'homme. Bien plus, d'un point de vue chrétien, tout ce qui touche à l'homme, qui est créé à l'image comme à la ressemblance de Dieu, tout cela touche également Dieu, son Créateur et Père. À la fin des temps, le Christ a rappelé qu'il était dans chaque personne fragile. « Ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » En Matthieu au chapitre 25. En effet, en rejoignant un être fragile dans sa soif de compassion et en l'ouvrant un ailleurs, le rite permet de donner du sens, permet à la fragilité de devenir source de sens. Les symboles renvoient une fécondité en lien avec l'invisible. Parce que, et c'est ça sa richesse, le rituel, et particulièrement le rituel chrétien, invite la personne à accueillir et à vivre en relation une réalité qui habituellement provoque la rupture de la relation. Parce que souvent la souffrance enferme dans le mutisme ou bien débouche sur une débauche de mots, on n'arrête pas de parler de soi, ou bien carrément coupe de la relation à Dieu parce qu'il semble trop inefficace, trop absent. Grâce au rite, qui est une démarche habituellement communautaire et qui est une médiation de la grâce dans l'Église, une porte s'ouvre vers l'espérance, vers d'autres possibles, même si la guérison n'est pas possible. Le rite, la célébration, permet aussi l'expression de l'angoisse et l'accueil d'une consolation. Dans l'Eucharistie, nous disons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. C'est-à-dire que nous proclamons que la mort n'aura pas le dernier mot, que nous ne sommes pas abandonnés là-dedans. Ce qui fait la différence entre un rite vécu magiquement et les rites tirés de la Bible ou de la tradition chrétienne, c'est que ces derniers ne sont pas centrés uniquement sur l'homme souffrant, qui veut, par tous les moyens, être libéré immédiatement, de façon sensible et automatique, de son mal, et tenté ainsi par un déni de sa finitude, de sa pauvreté, de sa fragilité, et tenté de toute puissance. Non, le rite, vécu dans la Bible, dans le christianisme, ouvre à la présence de Dieu. Et on peut donner ici l'exemple d'un rite qu'on rencontre dans le Premier Testament, qui se passe durant l'Exode, pour le peuple juif. C'est le livre des Nombres, au chapitre 21. Nous connaissons bien cette histoire. Lorsque Moïse va élever un serpent d'airain pour libérer son peuple des morsures du serpent. Des serpents se sont répandus dans le camp, des gens en meurent, Les gens se révoltent, crient vers Moïse, crient vers Dieu. Et Dieu déclare au peuple « Quiconque aura été mordu par un serpent mortel et regardera ce serpent d'airain restera en vie. » Ce rite ouvre à l'avenir, car il y a la promesse « Tu resteras en vie. » Et Xavier Thévenot fait remarquer que les Hébreux révoltés contre Dieu auraient préféré être débarrassés des serpents mortels, ce qui les aurait dispensés de reconnaître la gravité de leur faute, parce que ces serpents sont venus à la suite d'une révolte. Mais en disant de forger ce serpent en d'airain, Dieu ne supprime pas la fragilité ni le danger, mais il appelle à la foi. « Si tu me fais confiance, tu resteras en vie. » C'est le contraire du récit de la Genèse où la rencontre du serpent est fatale. Ici, ce n'est pas l'homme qui prend la place de Dieu. Ici, c'est une humble démarche de foi où, regardant le serpent exposé, l'homme reconnaît son salut. C'est pareil lorsqu'on pose le regard sur le Christ exposé sur la croix. Le serpent d'airain annonce la croix. L'exemple du serpent d'airain nous aide à mieux comprendre ce que la croix peut représenter pour un chrétien. Nous voyons qu'ici, cette humble démarche de la foi, dans le cas donc des Hébreux dans le désert, permet de surmonter la tentation de la toute-puissance et de se rappeler la racine du péché. Ce soupçon que portait le peuple juif à ce moment-là sur Dieu censé vouloir la mort de l'homme, alors qu'en fait il l'appelle sans cesse à la vie. Pour le chrétien, je le disais, c'est le Christ qui a été élevé, cette fois-ci sur une croix, vers laquelle les regards sont invités à se tourner. C'est à lui que nous sommes appelés à donner notre confiance, à lui qui a crié pourtant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est Xavier Thévenot qui dit « La vulnérabilité d'un supplicié, criant sa détresse et son questionnement, devient source de foi vivifiante. » Véritable folie pour la sagesse des Grecs. Comme on le lit dans la première aux Corinthiens au chapitre 1. Or, la résurrection du Christ n'a pas anéanti sa vulnérabilité. Nous l'avons vu, nous l'avons dit, il reste sensible aux cris de l'homme. Et tout d'abord, il y a cette vulnérabilité dans le sens que c'est à travers l'obscure clarté d'une foi toujours vulnérable que le ressuscité sera reconnu. On aura du mal à le reconnaître. Ensuite, les plaies de sa passion sont des invitations à faire mémoire des conditions de notre libération de la mort. Nous avons été libérés à travers l'exécution d'un innocent qui nous rappelle notre capacité de pervertir notre liberté jusqu'à tuer l'innocent. Enfin, comme le rappelle le récit du jugement dernier qui a été évoqué, le ressuscité s'offre de façon privilégiée sous les traits des plus fragiles, les affamés, les malades, les étrangers. Il s'est identifié définitivement à ceux que nous sommes tentés le plus facilement d'ignorer et d'exclure. Peut-être parce qu'il nous renvoie à notre propre fragilité et à notre besoin de salut. Du coup, que ce soit le rite du serpent d'airain ou la célébration de la croix victorieuse, nous sommes appelés à nous souvenir que sans poser un acte de confiance en celui qui est source de vie et vainqueur de la mort, notre fragilité risque d'être vécue uniquement comme un scandale, comme une mutilation, qui est en opposition avec notre rêve de bonheur, de jeunesse éternelle. Aujourd'hui, dans la démarche du rite chrétien, particulièrement le rite de l'onction, on met l'accent sur l'ensemble de l'expérience humaine dont doit tenir compte un sacrement. Et nous allons donc considérer le sacrement des malades dans le cadre de ce qu'on peut appeler une relecture sacramentelle de l'existence chrétienne. C'est Louis-Marie Chauvet, un spécialiste de la liturgie, qui emploie cette expression. C'est-à-dire, on relie l'expérience chrétienne, toute l'existence chrétienne, dans le cadre d'un sacrement. Et ici, il s'agira de l'onction des malades. Mais on pourrait tout aussi bien faire la même relecture à propos de deux autres sacrements tellement importants aussi pour les malades, celui de l'Eucharistie et celui de la réconciliation. Il ne faudrait pas penser que ce qu'on appelle la sacramentalité de l'Église, c'est-à-dire le rôle qu'elle a d'être signe, un signe visible et efficace de l'amour de Dieu, de réduire cette sacramentalité aux sept sacrements que nous connaissons, et de limiter le soutien sacramentel à simplement, pour le malade, l'onction des malades. Saint Augustin disait déjà, le seul sacrement, c'est-à-dire le seul signe le plus fort de la présence et de l'actualité de l'amour de Dieu, c'est le Christ lui-même, visage humain de Dieu auquel il renvoie en tant que chemin, vérité et vie. Jésus dit à Philippe en Jean 14, « Qui me voit, voit le Père. » Et le second sacrement, c'est l'Église, sacrement de salut pour le monde, qui annonce le royaume de tout son être, royaume déjà présent. Et c'est à partir de cette double origine, le Christ sacrement, l'Église sacrement, que l'on peut définir les sept sacrements. Louis-Michel Renier, théologien, dans un article dont le titre précise bien l'objectif « Le sacrement des malades dans l'œuvre commune de santé » insiste sur le fait que la célébration d'un sacrement doit être vécue en prenant en charge tout ce qui fait l'expérience d'accompagnement d'un malade. Et donc, il situe l'onction des malades à la fois dans le contexte d'une approche holistique de la santé qui tient compte de toutes les dimensions, le corps, la psyché, les relations, la relation à Dieu, la relation au cosmos, une approche holistique de la santé et de la maladie, mais aussi le partenariat avec tous ceux qui ont un rapport avec le malade. Ce partenariat que peut promouvoir aussi le sacrement lorsqu'il réunit aumôniers, autres représentants des religions, des personnels de santé et les familles. Ainsi, ces deux dimensions de l'approche holistique et du partenariat de tous les acteurs humanisent le rituel et permet de montrer qu'il y a une complémentarité entre la démarche du sacrement et l'ensemble plus large du soin et du soutien des personnes fragiles. Et du coup, l'onction que l'on va venir faire dans un hôpital, par exemple, n'apparaît pas comme un petit rite que l'on fait entre deux choses parce que l'aumônier est de passage. Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit d'inscrire l'accompagnement spirituel d'un malade et les rituels que l'on peut proposer dans ce partenariat avec le personnel soignant et les familles. Certains soignants en milieu hospitalier en sont convaincus, ils collaborent avec les aumôneries, ils sont informés de la religion des personnes, ils se rendent compte lorsqu'un malade a besoin d'être secouru, ils favorisent le contact. D'autres perçoivent plutôt la présence des aumôniers ou des bénévoles comme un obstacle à la bonne marche du service, alors que les restrictions budgétaires obligent à accélérer les cadences. Cela dépendra bien sûr en grande partie du regard que l'on pose sur la personne malade et sur la conception que l'on a du soin. Est-ce simplement un acte matériel ou est-il aussi ouvert à l'angoisse et à la fragilité du malade qui a besoin d'écoute, qui a besoin de consolation? Car nous l'avons vu, la personne malade est touchée dans toutes ses dimensions par l'expérience de la fragilité. Bien sûr, le corps reste prioritaire. Le premier acte, bien sûr, c'est de calmer la douleur, parce que cela retentit sur toutes les dimensions de l'être. Et le corps, qui dit corps, dit temporalité, rapport au temps, rapport à la parole, nous l'avons vu, qui peut être mutisme ou débauche de parole. Ça peut aussi être le moment d'une crise d'identité. On peut effectivement parler de crise d'identité dans ce que vit une personne qui se sent diminuée dans son corps, dans sa capacité de relation, dans sa capacité de parole. De même qu'elle a une difficulté de relation avec le monde qui l'entoure, avec le cosmos, avec un environnement qu'elle maîtrise mal. L'univers hospitalier est souvent un univers étrange. On y perd ses repères familiers. C'est une autre culture, dans le fond. Et c'est encore plus grave lorsque la personne n'est pas de culture occidentale et que le contexte du soin est tellement différent là où il était avant. Donc, cette difficulté, ce traumatisme culturel s'ajoute à la pathologie biologique ou psychique. Dans certains cas aussi, en même temps qu'il y a ce problème d'identité personnelle, certains vivent une difficulté par rapport à leur église, parce qu'ils ont l'impression que maintenant qu'ils n'y viennent plus, qu'ils n'y sont plus, qu'ils n'y sont plus actifs, eh bien, ils n'y sont plus vraiment reconnus. Enfin, nous l'avons vu plusieurs fois, il y a la question de la relation au divin. De cette révolte que l'on peut avoir contre Dieu, d'un Dieu qui apparaît absent. Et ce n'est pas pour rien quand je disais que la première guérison dont l'homme a besoin, c'est souvent celle de sa relation à Dieu. Parce que c'est à partir du moment où il arrive à se réconcilier avec son Dieu qu'il pourra aller plus loin, dans l'acceptation de ce qu'il a à vivre ou dans le combat pour la vie. Donc Louis-Michel Renier nous dit qu'il est important de considérer que tous les gestes d'humanité, même ceux des non-croyants, sont susceptibles d'être reconnus comme un signe de la présence de Dieu. Tout ce qui peut aider la personne malade ou vulnérable peut être aussi un moyen par lequel l'esprit est à l'œuvre dans la réalité humaine. D'où l'importance de ce partenariat, d'où ce souci d'aider le malade a retrouvé un goût à la vie en y associant aussi l'ensemble des acteurs qui l'accompagnent dans son combat. La démarche sacramentelle, telle que le présente le rituel, ouvre un élargissement à toute l'expérience humaine. Les gens qui ont accompagné, la famille, l'aumônier, les bénévoles, il s'agit d'entrer dans une démarche spirituelle où tous ceux qui ont participé ou qui participent aux soins sont représentés, peuvent être acteurs. Et la spécificité de l'aumônerie consiste alors à ce moment-là de permettre de découvrir qu'il peut exister une différence entre le guérir et le sauver. D'aider à croire que par-delà la maladie, la guérison physique ou non, peut exister une résurrection. Celle qui est offerte par Dieu, quoi qu'il arrive. Dans ce cas, l'expérience de la fragilité peut donner accès à un sens nouveau, une sorte de seconde naissance. Il existe une multitude de signes porteurs de vie qui peuvent être offerts par l'entourage, qui peuvent aider la personne. Et sans doute qu'aujourd'hui, le travail que l'on fait dans les soins palliatifs encourage à la créativité. Les aumôniers eux-mêmes peuvent proposer des gestes, des rituels qui ne sont pas forcément le sacrement de l'onction. Tout ce qui exprime la proximité, l'écoute, le respect, le réconfort, toutes les attitudes de dévotion, une statue, une icône, un chapelet, une prière particulière. Une approche globale du soin crée un cadre favorable à cela. Ceci est d'autant plus nécessaire lorsque nous sommes avec des personnes qui, pour des raisons d'irrégularité, de situation où elles ne peuvent pas recevoir de sacrement, bien peuvent alors, dans ce cas-là, être accompagnées par d'autres symboles et d'autres rites. Le rituel même de l'onction des malades ouvre à une grande diversité de signes sacramentels. Et tous ces rites sont ordonnés à la consolation de la personne malade, mais aussi de l'entourage. Il y a la communion, il y a la réconciliation, c'est-à-dire la confession. Il y a ce qu'on appelle le viatique, qui est la dernière communion avant de partir. Viatique veut dire ce qui va être utile pour le voyage. Puis tous les signes très simples d'humanité qui peuvent venir de l'entourage. Et la célébration sacramentelle sera d'autant mieux mise en valeur lorsqu'effectivement toute cette ritualité de la vie quotidienne est rassemblée, reconnue, célébrée, ce qui évite d'entrer dans la magie d'un geste extérieur. Et dans ce cas-là, on célèbre ce combat de la vie, mené jusqu'à la mort parfois, accompagné par toute la communauté soignante. Cela peut être un chemin de réconciliation pour le malade, réconciliation avec son corps, réconciliation de sa communication avec le monde et le cosmos, intégration de sa finitude, de sa possible mort. On peut célébrer la réunification de certains éléments pour lesquels le malade, avec lesquels le malade se sentait en rupture, et donner un nouveau sens à ce qu'il vit. Arriver à un consentement qui dépasse la guérison immédiate. Et lorsqu'on arrive à un tel apaisement de l'angoisse, eh bien on voit qu'il y a une amélioration sur le plan psychique, sur le plan biologique. Parfois même une restauration de l'identité de la personne. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, dans l'onction des malades, on insistera sur la guérison possible que cette onction peut apporter. On n'en est plus à l'extrême onction, le dernier geste qu'on va faire juste avant la mort. Mais c'est aussi une intercession pour la guérison. Et le fait d'utiliser de l'huile a beaucoup de sens. Depuis l'origine de l'Église, on utilise de l'huile. Il faut dire aussi qu'à l'époque, l'huile et le vin étaient considérés comme des moyens thérapeutiques. En utilisant l'huile, on touche au corps. En utilisant l'huile, on rappelle aussi le baptême où l'huile a été employée pour enduire le bébé, pour toucher le bébé. On rappelle donc ce lien avec la communauté chrétienne. Et puis, cette huile qu'on utilise pour l'onction des malades a été bénite par l'évêque lors de la messe chrismale du lundi saint, ce qui veut dire que d'une certaine façon, tout le diocèse, toute la communauté chrétienne est là dans ce geste. Oui, cette démarche sacramentelle inclut une demande de guérison qui peut être physique, psychique ou sociale, qui peut être aussi réconciliation avec Dieu. L'onction faite sur le front, sur les mains, signifie la tendresse de Dieu qui rejoint la personne, qui la touche dans tout son cœur, dans son histoire, comme Jésus l'a fait, dans sa mémoire, dans ses relations. C'est un geste qui libère l'esprit dans les profondeurs du cœur, qui rappelle que le Christ a précédé la personne dans toutes ses souffrances, qu'en lui, elle est déjà ressuscitée. Parfois, on est ému par le rayonnement qui apparaît sur le visage d'une personne qui a reçu l'onction divine et qui est arrivée à s'abandonner dans la confiance que le Seigneur est à l'œuvre. Enfin, pour terminer, il nous faut rappeler quelque chose d'important, c'est que Dieu passe par des communautés de compassion. Et que nous avons donc à nous poser la question, quelle place donnons-nous aux personnes avec un handicap, avec une fragilité, avec une limite ? Dans un monde tenté par l'euthanasie, par l'eugénisme, par la marginalisation de ceux qui souffrent, de ceux qui sont autres, les communautés chrétiennes sont appelées à rappeler que le Seigneur a une tendresse infinie pour le plus petit et qu'il nous le confie, ce tout petit. Le malade, l'enfant, le vieillard, le handicapé, toute personne qui a besoin de notre tendresse. Nous y reconnaissons le visage de Dieu.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.